Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du programme en langue française de Radio Prague. Vous le savez, comme chaque samedi, deux grandes rubriques nous attendent dans la prochaine demi-heure. Rubrique culturelle tout d'abord, dans laquelle il sera question de bande dessinée. 20 ans après, Vittorio Giardino, un auteur italien, termine les aventures de Jonas Fink à Prague. Une trilogie captivante qui nous plonge dans la mystérieuse Tchécoslovaquie des années 1950 et 60. Nous vous en dirons plus dans quelques instants. Et puis, rubrique culturelle ensuite aussi, dans laquelle il sera question des prix pour les meilleurs livres de l'année 2017 en République tchèque. Très bonne écoute.
Culture sans frontières.
Avant de changer radicalement de voie, Vittorio Giardino a longtemps été ingénieur électronique. C'est ce métier qui l'a amené à se rendre à plusieurs reprises dans les anciens pays du bloc de l'Est, parmi lesquels la Tchécoslovaquie. Devenu auteur de bande dessinée à plein temps, Vittorio Giardino a publié en 1994 et 1997 deux volumes consacrés à Jonas Fink, un jeune Tchécoslovaque pris dans la tourmente des années 50, aujourd'hui ressorti par les éditions Casterman sous le titre « Ennemi du peuple ». 20 ans après, l'écrivain et dessinateur italien a décidé de terminer sa trilogie avec « Le libraire de Prague » où l'on retrouve Jonas Fink de 1968 jusqu'à la Révolution de velours. Au micro d'Anna Kubishta, Vittorio Giardino nous a parlé dans un français parfait de son personnage et de son amour pour la littérature tchèque.
Le personnage que j'ai imaginé, c'est quelqu'un qui a plus ou moins mon âge, un peu plus que moi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a 12 ans, je crois, dans le 1950, et qui est né et qui vit à Prague. J'ai voulu suivre la vie de ce personnage à partir des années 50 jusqu'à arriver presque aujourd'hui.
Alors c'est des années 50 qui sont très dures, très noires. Hein. Et alors Jonas Fink, pour le coup, ce personnage est d'origine juive, d'une famille d'intellectuels. Donc être juif dans une famille d'intellectuels en Tchécoslovaquie dans les années 50, c'est très difficile.
Oui, ça peut devenir, mais pas forcément pour tout le monde, mais ça peut devenir très difficile parce que j'ai lu de livres, de romans, aussi des essais qui ont parlé de la situation de période, mais un événement, je dirais, qui est terriblement significatif, vraiment, c'est le procès de Zelensky, de le premier ministre à l'époque, c'est-à-dire de la répression de les communistes faits par le communisme. Et l'unique survécu est Arthur London, qui était à l'époque le ministre pour les affaires étrangères, hein, qui a écrit l'aveu. Et donc j'ai bien lu l'aveu avant de penser à d'écrire l'histoire de Jonas Fink. Et ça m'a bien touché de voir comment à l'époque une éventuelle condamnation de quelqu'un pour des raisons politiques s'élargit à toute la famille. Et donc, pour revenir un instant à Jonas Fink, quand il est enfant, son père vient emprisonner et, comme passait souvent à l'époque, sans savoir exactement pourquoi, mais les conséquences de cette arrestation vont toucher toute la famille. Par exemple, la famille va être poussée au dehors de la maison, il doit absolument quitter la maison, et Jonas Fink même doit quitter l'école.
Oui, alors c'est ce qu'on voit exactement, c'est-à-dire que donc Jonas Fink vit avec sa mère, qui est obligée du coup de travailler, de faire des petits boulots, de gagner maigrement sa vie pour payer la petite chambre qu'elle loue. Son père est en prison pendant longtemps, il ne savait même pas ce qu'il devient. En fait, on suit finalement l'histoire de Jonas qui doit en fait travailler aussi pour gagner de l'argent, pour subvenir aux besoins de sa mère et de lui-même. Et puis, petit à petit, en fait, puisque son histoire, en fait, elle se déroule, hein, donc des années 50 finalement à la révolution, jusqu'à la révolution de velours et un peu après, il va devenir ami avec avec un groupe de jeunes et de jeunes qu'on pourrait dire justement un peu dissidents, enfin voilà, disons qui ont d'autres envies, des envies de liberté en fait.
Oui, ça passe quelques ans après parce que comme pas souvent dans la vie, par hasard, il va rencontrer un ami d'enfance qui a continué ses études. Cet ami qui s'appelle Thierry va lui introduire dans un cercle de copains qui ont comme activité la lecture des textes qui sont censurés par le pouvoir. Le défi de ces garçons sont des très jeunes, hein. Normalement l'âge c'est plus ou moins 15 ans, hein. C'est de trouver des textes interdits et de les lire dans un parc public, le parc de Pétrine, le dimanche. Donc dans mon histoire commence à apparaître la présence des livres. C'est une présence très importante.
Bah, finalement, c'est les livres qui... C'est le fait de vous montrer, c'est ça, que le livre, c'est un espace de liberté, en fait.
Normalement, les dictatures se préoccupent vraiment très tôt et très fort de contrôler l'expression générale, pas seulement des livres, évidemment, mais aussi de la radio, de la télé, etc. Comme si les dictatures croyaient que c'est quelque chose de très dangereux. Si vraiment on pense ça, ça veut dire qu'ils croient que sont très importants. Et beaucoup plus de ce qu'on connaît normalement l'opinion de le même réseau dans les démocraties. Normalement, en Italie, au moins, les livres, il faut dire que c'est une ambiance très peu importante par rapport au pouvoir, j'ai dit, hein, par rapport à les rapports de pouvoir. Mais je vois que, pas seulement à l'époque de la dictature communiste, mais aussi dans les dictatures, je ne sais pas, en Argentine ou à l'époque en Grèce, et en général, mais aujourd'hui on voit très bien ça en Turquie par exemple, que la préoccupation d'empêcher à certains écrivains d'écrire, c'est une préoccupation très forte pour la dictature. Mmh. Ça veut dire qu'elles ont une grande opinion de l'importance de ça, plus que nous, on peut dire.
On va pas résumer tout le livre parce que je pense que c'est bien que les lecteurs le découvrent par eux-mêmes. Par contre, j'aimerais vous demander un petit peu pourquoi et comment vous avez été amené à vous intéresser à l'histoire de la Tchécoslovaquie.
Je dois dire que l'intérêt pour la Tchécoslovaquie a commencé bien avant d'imaginer une histoire en BD. Hein. Elle est partie surtout de la littérature parce que j'ai lu certains livres de la littérature tchèque qui m'ont vraiment touché. Pour commencer, par exemple, j'aime à la folie, mais c'est très simple de l'aimer, Kafka. Même s'il a écrit en allemand, je crois qu'il est tchèque jusqu'à... tchèque et juif, vraiment de la tête aux pieds. C'est pas par hasard que le groupe de amis de Jonas Fink, cet adolescent qui s'est réuni pour lire le livre interdit, s'appelle Odradek. Ce mot inventé par Kafka, j'ai toujours aimé la littérature tchèque, mais par exemple, un autre livre incroyablement beau que je l'ai lu et relu souvent, c'est le Bon Soldat Shrike. Par exemple, le personnage de plombier de mon roman qui s'appelle Slavik, c'est ma version de Shrike. Ma BD est pleine de références littéraires. Pour moi, les livres sont très importants. Et j'ai dit souvent que probablement je connais plus de personnages littéraires que de personnes réelles.
En fait, en regardant un petit peu votre bibliographie, hein, vous êtes très intéressé par des sujets historiques. Disons que vous prenez comme toile de fond de vos histoires une période historique. Alors, il y a la guerre d'Espagne, hein, pour la série Max Friedman. Vous avez aussi écrit Rhapsody hongroise. Il y a Jonas Fink. Qu'est-ce qui vous intéresse tant, finalement, dans le fait de traiter en BD des faits historiques?
Ce qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est ce qui se passe dans le monde. Même aujourd'hui, ou si vous voulez, surtout aujourd'hui. Mais je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut connaître ce qui est passé avant. Alors, m'intéresse beaucoup, par exemple, de raconter une ambiance à travers des personnages, pas de faire des livres didactiques, évidemment, et pas de véritables essais historiques, parce que je n'ai pas la compétence, mais de raconter des histoires dans une ambiance qui correspond à une situation historique, surtout quand cette situation historique est presque oubliée. Vous n'avez pas d'idée, mais aujourd'hui en Italie, et pas seulement en Italie malheureusement, les gens qui se rappellent de ce qui est passé dans le 68 à Prague, là, dans le mois d'août de 68, c'est vraiment très peu. Les jeunes ne connaissent rien de tout ça. Donc, j'aime raconter des faits qui sont un peu oubliés, d'un côté, mais de l'autre côté, des faits qui ont toujours des liaisons avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, par exemple, je suis occupé, j'ai décidé mieux de m'occuper de la guerre d'Espagne quand j'ai vu ce qui est passé en Yougoslavie à l'époque dans les années 90. Je dirais que l'intérêt pour certaines périodes de la Tchécoslovaquie est parce que je crois que ce qui est passé dans la 89, c'est quelque chose qui a des reflets même aujourd'hui. On vit encore dans l'héritage de ce qui est passé ces années-là.
J'aurais juste une dernière question. À l'origine, vous n'êtes pas dessinateur, vous êtes ingénieur. Qu'est-ce qui vous a amené à la bande dessinée?
Donc pour répondre exactement à ça, il faudrait avoir pas 2 minutes, mais 2 heures minimum. Non, ce que je peux dire vraiment très, très vite, c'est que j'ai toujours aimé la BD de quand j'étais enfant. Et j'ai toujours aimé dessiner de quand j'étais enfant. Mais j'aurais jamais imaginé, jusqu'à 30 ans presque, que ça pourrait devenir un véritable travail. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut faire et être payé en même temps. Parce que je m'amuse, je suis toujours amusé, et je m'amuse tellement dans mon travail que, je répète, je le ferai également si je l'ai fait dans certaines manières, même quand je faisais l'ingénieur. Mais à certains points, je l'ai fait évidemment comme un hobby, hein, quelque chose, un deuxième, comme un amusement. Mais finalement, j'ai décidé que dans la vie, c'est important aussi s'amuser. Donc, c'est plus important que l'argent, parce que, attention, comme ingénieur, j'ai gagné beaucoup plus. Mais comme auteur BD, je m'amuse beaucoup plus.
C'est
donc,
ça.
Aujourd'hui, sont déjà passés plus que 30 ans que j'ai quitté mon premier travail, et je m'amuse exactement comme le premier jour. Même aujourd'hui.
Voilà, c'était donc Vittorio Giardino. Vittorio Giardino, l'auteur d'une série de bandes dessinées consacrées à Jonas Fink, un jeune tchécoslovaque pris dans la tourmente des années 50, aujourd'hui ressorti par les éditions Casterman sous le titre Ennemi du peuple et dont le troisième tome intitulé Le libraire de Prague vient de sortir. On reste dans le domaine des lettres avec cette fois Václav Richter, Václav qui nous a rejoint en studio et ce pour répondre à cette question, comment s'orienter dans la surproduction littéraire tchèque? Comme trouver dans cette avalanche de livres qui déferle tous les ans sur les rayons des librairies tchèques des ouvrages qui méritent d'être lus, le lecteur indécis et désemparé peut orienter son choix entre autres selon les prix littéraires dont le plus prestigieux est probablement la distinction Magnesia Litera décernée aux meilleurs ouvrages chaque année depuis 2002. Voici une courte présentation par Václav Richter donc de 3 livres ayant obtenu ce prix cette année.
Rencontre littéraire.
Bonjour.
comment s'orienter dans la surproduction littéraire tchèque? Comment trouver dans cette avalanche de livres qui déferlent tous les ans sur les rayons des librairies tchèques des ouvrages qui méritent d'être lus? Le lecteur indécis et désemparé peut orienter son choix, entre autres selon les prix littéraires, dont le plus prestigieux est probablement la distinction Magnesia Litera, décernée aux meilleurs ouvrages chaque année depuis 2002. Voici une courte présentation de trois livres ayant obtenu ce prix cette année. Les prix Magnesia Litera sont attribués aux livres tous genres confondus, car les membres de l'association Litera estiment que la prose, la poésie, la traduction et la vulgarisation des sciences méritent la même attention des lecteurs. Ils ont quand même divisé la littérature en 9 catégories qui devraient couvrir le monde de l'édition tchèque dans son ensemble. Nous allons évoquer aujourd'hui les livres ayant remporté le prix dans les catégories de la prose, de la poésie et de la littérature documentaire. C'est le chercheur Josef Pánek qui a remporté le prix dans la catégorie de la prose, et c'est probablement la plus grande surprise littéraire tchèque de cette année. Ce spécialiste de la génétique moléculaire, qui n'avait écrit auparavant qu'un recueil de contes, est entré dans ce que nous appelons la grande littérature par un livre original et souverain qu'il a intitulé « Láskab dobie globalnych klimatických změn »« L'amour à l'époque du changement climatique global ». Il exploite dans ce livre ses expériences de globetrotter car il a vécu et travaillé non seulement en Tchéquie, mais aussi en Norvège et en Australie. Le besoin d'écrire son livre a cependant été provoqué par le choc qu'il a subi lors de son séjour à Bangalore, en Inde.
A tak jsem si myslel, že už jsem viděl v tom světě úplně všechno. A vůbec jsem si neuvědomoval.
Je pensais avoir tout vu et je ne réalisais pas que ce n'était pas vrai du tout. Je m'en suis rendu compte après mon arrivée en Inde. On m'a mené en voiture de l'aéroport à l'hôtel de Bangalore et c'était un véritable choc. La saleté, la puanteur, les ténèbres, les feux dans les rues. Le trajet entre l'aéroport de l'hôtel a duré à peu près une heure. Je me suis blotti dans le siège arrière et j'avais envie de dire au chauffeur « Ramène-moi à l'aéroport, je vais m'enfuir de cet enfer ». C'était vraiment un grand choc.
Le héros du livre vient à Bangalore pour participer à un symposium. Se hasardant dans les rues de cette mégalopole où s'affrontent tradition et modernité, il rencontre une jeune indienne et cette rencontre, qui ne manquera pas d'aspect érotique, lui permet de confronter les récits des deux personnages différents qui sont les histoires de deux vies, mais aussi un dialogue entre civilisations. Avec une étonnante maîtrise de style, Josef Pánek jette un regard désabusé sur le monde où nous vivons, sur ce village global appelé la Terre. Il évoque et illustre avec des épisodes hauts en couleur tout un éventail de thèmes sensibles du monde actuel qui seront probablement décisifs pour l'avenir de notre civilisation, tels que la xénophobie, les migrations, le racisme, les stéréotypes culturels. Parmi les grands thèmes de ce livre, il y a l'amour sous différentes formes et aussi comme le sexe occasionnel qui, selon Josef Pánek, est une chose courante aujourd'hui. Il précise cependant.
Dans ce livre, il ne s'agit pas que de sexe occasionnel. Quand il y en a, on voit dans cette histoire que même cette chose négative peut déboucher sur quelque chose de beau. C'est pourquoi il y a dans le livre ces récits qui sont très longs. D'abord, un homme se raconte à une femme, puis elle se raconte à lui. Et on dit aussi dans le texte qu'à l'époque actuelle, époque des médias électroniques, la narration en Inde a sa raison d'être. Celui qui sait bien raconter est très respecté en Inde.
Má smysl, že jo, že kdo umí hezky vyprávět, tak jakoby je považován jako vážený v té Indii.
Et c'est aussi l'art de raconter et de mobiliser tout un arsenal de moyens de la littérature moderne qui donne au livre de Josef Pánek son caractère original et qui a séduit le jury du prix Magnesia Litera. C'est le livre d'un homme qui jette un regard ironique sur le monde, mais qui sait se moquer aussi de lui-même. Ce chercheur de l'Institut de microbiologie de l'Académie des sciences, un homme qui ne fréquente pas les salons littéraires, a fait une entrée fracassante dans la littérature. L'homme venu d'ailleurs apportait une bouffée d'air frais à la littérature tchèque. C'est une île sur l'Elbe qui est le lieu qui déclenche le courant de l'inspiration dans le recueil intitulé « Uprazeń Ostrova », le tour d'une île. Ce recueil de Milan Jezinski a remporté le prix Magnesia Litera dans la catégorie de la poésie. Cette île, qui n'a pas de nom, se trouve au milieu d'une rivière dans la ville de Roudnice, où le poète vit depuis 40 ans et qui est, comme il dit, le centre d'accouchement de sa poésie.
Ten ostrov, to je takový symbol toho...
Cette île est un symbole du milieu de la vie. On flâne sur cette île, on rôde autour de ce que l'on a déjà réussi à accomplir et on suit la ligne de sa vie en cherchant sa signification. Sur le plan symbolique, nous pouvons percevoir cela comme un retour sur la période de 15 ans dans ma vie qui a commencé avec mon premier recueil, a culminé avec mon deuxième livre de poésie et qui a abouti avec le troisième livre. C'est comme une réconciliation. Maintenant, j'aimerais continuer peut-être un peu différemment, on verra.
Zakončení toho období a dál bych chtěl pokračovat možná trošičku jinak, to uvidím.
Le poète avoue de ne pas être un créateur spontané. Ses textes naissent lentement et douloureusement et il cherche longtemps ses moyens d'expression. Même la lecture de cette poésie n'est pas facile et exige un engagement intérieur de la part du lecteur. Le jury qui lui a attribué le prix a apprécié le fait que le lecteur de cette poésie soit souvent obligé de revenir en arrière, d'abandonner l'image poétique séduisante pour retrouver et reconstituer dans son fort intérieur l'ensemble du poème. Et ce processus qui réserve au lecteur un rôle actif finit par lui permettre de mieux comprendre et de s'emparer en quelque sorte du poème lu et même de tout le recueil. C'est un livre qui restitue et documente un long processus de recherche qui a remporté le prix Magnesia Litera dans la catégorie du livre documentaire. Le collectif d'auteurs dirigé par Lucie Skrzywankowa et Rostislav Schwach a intitulé cet ouvrage « Panelaci ». Pour expliquer ce titre, il faut dire que le mot « panelak » désigne les édifices en panneaux préfabriqués qui, à partir des années 1950, ont envahi les périphéries des villes tchèques. Le mot avait souvent des connotations péjoratives, car les panelaks étaient considérés comme les produits d'une architecture bâclée et d'une industrie du bâtiment qui n'avait qu'un seul objectif, construire rapidement et à peu de frais. Le livre Panelaci peut être considéré cependant comme une sorte de réhabilitation des quartiers de maisons de panneaux préfabriqués. Un de ses auteurs, Rostislav Schwach, qui est historien de l'architecture, constate.
Panelovým sídlištím existoval v české společnosti postoj kritický.
La société tchèque a adopté une attitude très critique vis-à-vis des quartiers d'habitation en panneaux préfabriqués dès les années 1980 et encore plus dans la décennie suivante. Mais on ne faisait pas la différence. Notre première tâche a donc été de faire la différence parce qu'il y a des quartiers d'habitation en panneaux préfabriqués réussis et d'autres moins. Nous avons procédé à une périodisation de ces zones urbaines et les avons divisées en 5 ou 6 périodes. Et l'étape qui nous a été le plus sympathique, c'est celle des beaux quartiers des années 1960. Car les années 1960 n'ont pas seulement été un âge d'or dans d'autres branches de la culture tchèque, comme par exemple le cinéma, mais aussi l'âge d'or de l'architecture tchèque et des quartiers résidentiels.
Zlatá doba české architektury a dokonce i zlatá doba českých sídlišť.
Voici donc 3 des ouvrages distingués cette année par le prix Magnesia Litera. Comme la récolte littéraire de cette année a été beaucoup plus abondante, nous vous présenterons aussi d'autres livres couronnés par le prix encore dans nos prochaines émissions.
On arrive ainsi au terme du programme préparé pour ce samedi par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous écouter également ce dimanche pour notre traditionnelle émission musicale, une émission dans laquelle vous pourrez élire la chanson tchèque du siècle depuis 1918 et la fondation de la Tchécoslovaquie. Voilà, à très bientôt donc. De nouveau à l'écoute. Bon week-end. Ahoy. Thank you.